Vous écoutez, on lit pour vous.
Dessert en poupée russe pour des légumes en hiver. Un texte de Simone Caron, paru le 17 juillet 2023 dans la presse. En théorie, les serres sont une excellente idée pour renforcer notre autonomie alimentaire pendant l'hiver, quand les champs du Québec sont moins généreux qu'en ce moment. En réalité, cultiver des fruits et des légumes en saison froide est souvent très énergivore. Pas pour l'agriculteur Jean-Martin Fortier qui approvisionne son restaurant en plein hiver grâce à une serre éco-responsable. Jean-Martin Fortier, à qui l'on doit la ferme des Quatre Temps et qu'on connaît aussi sous le nom du jardinier maraîcher, croit fermement à l'agriculture durable. Son dernier projet, l'espace Old Mill, est un restaurant fermier situé à Stanbridge East, dans les cantons de l'Est. Ouvert depuis le printemps, ce commerce offre des plats du terroir, cuisinés uniquement avec des produits locaux. Et tous les légumes du menu poussent sur le domaine, même en plein hiver. Pour y arriver, sans consommer trop d'énergie, le jardinier maraîcher a conçu une serre un peu spéciale. Un système de chauffage carboneutre. Le nerf de la guerre, c'est le chauffage. Le besoin énergétique est tellement important que le courant électrique standard n'est pas assez puissant. Ainsi, la majorité des serres qui fonctionnent en hiver au Québec doivent être chauffées au propane. On est chanceux au Old Mill parce qu'on a accès au courant électrique triphasé 600 volts. On a installé la serre juste à côté du chemin. Alors, on peut se connecter au réseau. On n'a pas besoin de combustible fossile, dit Jean-Martin Fortier, jardinier maraîcher. En effet, le bâtiment utilise un appareil de chauffage 100% électrique. Il est connecté à un ventilateur qui diffuse l'air chaud à travers des ballons perforés placés au sol. De cette manière, la chaleur reste davantage autour des plants au lieu d'être perdue dans l'air ambiant. Jusque-là, ce n'est rien de trop innovant, explique le jardinier maraîcher qui utilise la méthode des tubes d'air chaud dans plusieurs projets. Le plus intéressant au Old Mill, c'est que j'ai une serre dans une serre. Les serres en poupée russe. Dans sa serre, Jean-Martin Fortier a en effet installé deux autres serres, plus petites, pour recouvrir les plants de légumes et les tubes d'air chaud. En hiver, il suffit de chauffer ses compartiments et non l'espace au complet, ce qui représente une importante économie d'énergie. De plus, le principe d'une serre est de laisser entrer la lumière tout en emprisonnant la chaleur. Ainsi, en installant une deuxième couche pendant l'hiver, on peut doubler cet effet qui garde les légumes au chaud. Le jour, le sol absorbe la chaleur. Et le soir, quand on ferme la membrane, toute cette chaleur accumulée dans le sol est relâchée et reste contenue dans la petite serre, indique Jean-Martin Fortier. Le simple fait d'ajouter la petite serre augmente la température interne de 6 ou 7 degrés Celsius. Grâce à cet ajout, Jean-Martin Fortier estime qu'il économise environ 30 % d'énergie en hiver. En été, il enlève complètement la membrane de la petite serre pour faire pousser des plants plus hauts, comme des tomates et des petits pois. Choisir ses légumes. Ce n'est pas qu'une histoire de design de serre. Le succès de cette culture hivernale carboneutre réside aussi dans le choix des légumes. D'une part, parce que le maraîcher doit planter des cultures basses pour qu'elles puissent être recouvertes par la petite serre, mais surtout parce qu'il tient à cultiver des légumes résistants au froid. Il chauffe la serre à seulement 5 degrés centigrades pour économiser le maximum d'énergie. « Je ne veux pas chauffer à 18 la nuit en hiver », souligne le maraîcher. « Je ne crois pas que c'est un modèle adapté au Québec. » Plutôt que de faire pousser des poivrons et des aubergines, Jean-Martin Fortier se concentre sur des plants qui tolèrent une chaleur minimale, comme les légumes feuilles et les échalotes. Il suffit d'adapter le menu en fonction des saisons, indique le jardinier maraîcher en rappelant qu'il est tout de même possible d'avoir une diversité d'aliments. J'arrive à faire pousser une quinzaine de légumes différents dans la serre en hiver. Puis, avec les réserves de légumes racines et de choux dans le caveau, on arrive vraiment à cuisiner des plats intéressants. Jean-Martin Fortier souhaite montrer aux gens qu'on peut manger local toute l'année. Il invite donc les clients du restaurant à visiter la serre, car l'objectif de l'espace Old Mill est de valoriser les tables de saison. Si je suis capable de le faire dans mon restaurant, on est tous capables de le faire à la maison. C'était « Des serres en poupée russe pour des légumes en hiver », un texte de Simone Caron paru le 17 juillet 2023 dans La Presse.
Retour de bâton. Une chronique signée Denis Daniel Boulay, parue le 19 juin 2023 dans le magazine Fugue. Commençons par une anecdote. Même si jamais je n'ai eu envie de leur donner une quelconque forme de publicité, il faut parfois ne plus se mettre la tête sous le sable. Les chroniqueurs et chroniqueuses qui ne cessent de varger sur les minorités 2SLGBTQ+, ne sont plus qu'un épiphénomène en voie de disparition. Ils reprennent de la bête, leur discours est de plus en plus partagé aussi bien par la population que par des partis politiques, religieux et autres. Lors de l'inauguration de l'exposition « Unique » en son genre au Musée de la civilisation de Québec, un artiste au cours de sa performance s'est déshabillé, s'est donc retrouvé nu frontalement, avant d'enfiler une robe et de chausser des talons hauts. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les foudres de la chroniqueuse culturelle Sophie Durocher, outrée à l'idée que des enfants aient pu apercevoir un sexe masculin. Sophie Durocher se targue d'avoir de la culture et d'être ouverte d'esprit. Ainsi, elle comprenait fort bien que l'on puisse admirer le sexe du David de Michel-Ange ou l'entrejambe largement ouverte d'une femme peint par Gustave Courbet dans son célèbre tableau « L'origine du monde », ce qui, j'en déduis, était de l'art et que la performance se réduisait à de l'exhibitionnisme. Pour étayer son propos, Sophie Durocher a simplement dit que le « David » ou « L'origine du monde », c'était autre chose. Fin de la comparaison, et somme toute un peu court. La chère dame oublie que l'histoire de l'art a été marquée par de nombreux scandales qui déchaînèrent des passions, même dans les plus hautes sphères politiques. Certaines œuvres considérées comme outrancières, insultantes, sont aujourd'hui considérées comme des chefs-d'œuvre. Il est vrai que chaque époque a eu ses Sophie Durocher. Sophie Durocher se dit ouverte et tolérante, même si ces dernières sont encloses derrière des fils barbelés, des champs de mines. Ce n'est pas par pudibonderie qu'elle s'insurge contre un sexe masculin dévoilé, c'est au nom des enfants qui ont pu assister à cette performance. C'est d'ailleurs toujours au nom des enfants et de leur protection que se construisent les discours de celles et ceux qui ont toujours manifesté contre les avancées des minorités de la diversité en France. C'est pour sauvegarder la pureté de l'enfant qu'on s'est opposé aux cours d'éducation sexuelle, puisqu'on y parlerait d'homosexualité et du genre. Au Québec, c'est aussi pour protéger les enfants que l'on s'est insurgé sur l'avenue des drag queens dans les bibliothèques pour lire des contes. En somme, parler de relations entre personnes de même sexe, de l'identité de genre serait traumatisant pour les plus jeunes, la porte d'entrée de pédophiles ou encore de les influencer et leur donner de mauvaises idées. Cela en dit long sur la façon dont tous, toutes ces bien-pensants-pensantes peuvent nous percevoir, c'est-à-dire comme un danger. Les groupes religieux et idéologiques, les conservateurs, les mouvements politiques de droite et d'extrême droite font leur pain et leur beurre sur ce qu'ils appellent le LGBTisme. Nous serions la cause de tous les maux que vivent nos sociétés actuellement. Perte de repères, destruction de la famille, renversement des rôles traditionnels de l'homme et la femme, ils utilisent toujours ces mots au singulier, ce qui en dit long, et que nous aurions gangrené toutes les institutions privées et publiques où nous ferions la pluie et le beau temps, suivant à la lettre un agenda pour détruire la civilisation. Rien de moins. Un agenda que visiblement seulement eux ont connaissance, car je n'en ai jamais vu l'ombre d'un. On peut se moquer de leur discours. On peut, comme beaucoup, ne pas tenir compte de leurs propos ou ne pas écouter, comme moi, les chroniques de Sophie Durocher et de ses comparses, mais leurs invectives, leurs condamnations, voire leurs insultes ne cessent de se répandre chez nous, au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans les pays où les minorités de la diversité avaient enfin conquis une reconnaissance légale et un peu plus de reconnaissance sociale. Comment y répondre? L'expo unique en son genre est une réponse. Elle se veut rassembleuse, ouverte sur la diversité, sur la compréhension des différences. Mais voilà, un simple sexe masculin aperçu lors d'une performance a suffi à libérer une parole ordurière. De même que la simple présence d'une drag queen face à des enfants dans une bibliothèque signerait la fin des temps. Cette tendance à nous cibler et que l'on retrouve un peu partout et à tous les niveaux nous demande de rester vigilants, vigilantes, de ne pas nous endormir sur nos lauriers, de soutenir les organismes qui luttent pour que cesse ce retour de bâton et donc de solidifier en plus notre solidarité pour finir avec la chronique de Sophie Durocher. L'animateur qui la recevait sur Cube Radio était Benoît Dutrissac. L'animateur faisait peine à voir, pleurnichant sur le fait qu'on lui reproche d'être un vieux mâle blanc. Il commentait les propos de Sophie Durocher avec son habituel langage fleuri. J'espère que les enfants n'écoutaient pas. Et pour se rendre intéressant en singeant l'artiste performeur du Musée de la Civilisation, il s'est levé et a fait mine de sortir son sexe. Il n'y est pas allé plus loin. Heureusement pour nous, j'avais envie de lui écrire qu'il aurait peut-être dû sortir son sexe. Après tout, on y aurait vu peut-être un peu plus d'humanité, de bienveillance et d'ouverture que sur son visage. Et personne ne l'empêchera de sortir tête nue, même si, à mon avis, cela constitue bien un attentat, non pas à la pudeur, mais à l'intelligence. C'était « Retour de bâton ». Une chronique signée Denis Daniel Boulay, parue le 19 juin 2023 dans le magazine Fugue.
Découvrir Puerto Vallarta comme un local. Un texte de Stephen Ross, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue. Une des destinations balnéaires mexicaines les plus prisées par la communauté LGBTQ+, Puerto Vallarta offre aux visiteurs sécurité, accueil chaleureux et plus d'activités que votre calendrier Outlook ne pourra en prendre. Plusieurs des endroits les plus « hot » à essayer en ce moment sont souvent ignorés par les blogs touristiques. Je vous propose donc ici un survol des incontournables de Puerto Vallarta qui ne se retrouve pas dans les guides destinés à la communauté LGBTQ+. Alors, suivez-moi et découvrez Puerto Vallarta comme un véritable local. Vamos! Traversez la baie de Banderas en Sidou. Oubliez les promenades à cheval, l'activité romantique à faire, si vous voulez surprendre votre douce moitié, est de l'emmener faire une escapade en Sidou à travers la baie de Banderas. Après tout, quoi de mieux que de passer 2 heures en cuillère à glisser sur les vagues? Parmi les quelques compagnies qui offrent ce genre d'escapade sportive, TB Tours propose une excellente formule de 2 heures lors de laquelle vous pilotez votre propre machine tout en suivant un guide expérimenté. L'excursion part de la marina de Puerto Vallarta et vous fait sillonner la côte de la baie jusqu'aux îles du parc national de Los Arcos de Mismaloya. Une fois arrivé à destination, vous aurez la chance de faire une session de snorkeling afin d'admirer les nombreux bancs de poissons qui se font beaux rien que pour vous. Durant l'aller et le retour, vous longerez la Playa Los Muertos et la zona romantica, en plus de voguer devant le malecón, le centre-ville et la zone hôtelière. Une activité bourrée d'adrénaline qui vous donnera un point de vue imprenable et les meilleures photos sur Puerto Vallarta. Ride on! Allez dire coucou à nos amis de chez Mr. Bear. Chris Boudreau et Jonathan Gandolfo du Mr. Bear ont donné une petite sœur à la boutique de Montréal en avril dernier. Située sur la rue Lázaro Cárdenas, en face du célèbre Cookie Karaoke, le magasin offre une gamme complète de vêtements non genrés, d'accessoires fétiches et de produits en néoprène qui font la renommée internationale de la marque québécoise. Afin d'offrir une expérience qui reflète la communauté de Puerto Vallarta, l'équipe du Mr. Bear a dessiné une ligne de produits exclusifs qui ne se retrouve qu'à cette boutique. On compte notamment des serviettes de plage, des T-shirts avec des imprimés inspirés du Mexique, ou encore des casquettes arborant un vocabulaire LGBTQ+, hispanophone, comme « papi » ou « OSO ». Confectionnés à Montréal, les articles sont envoyés à Puerto Vallarta et vendus à un coût très accessible afin de pouvoir répondre tant aux touristes qu'à la clientèle locale. Mr. Bear, Puerto Vallarta, donne également une vitrine de choix aux artistes visuels locaux, notamment en leur permettant d'exposer leurs œuvres à l'intérieur du magasin. Lorsque l'on demande à Chris Boudreau si les Montréalais devraient visiter la boutique, il s'anime. Venez nous voir pour constater la différence entre les deux boutiques. Faites comme à Montréal, arrêtez nous dire coucou. Plusieurs personnes de Montréal viennent pour nous demander des conseils, un resto, une activité, et on apprécie beaucoup. Continuez à venir nous rencontrer et venez voir les artistes locaux. Prenez le bus jusqu'à Sayulita. Grâce à son atmosphère typique des petites villes côtières, Sayulita est devenue avec le temps l'un des joyaux les plus recherchés par la communauté LGBTQ+. Son ambiance ouverte fait que tout le monde s'y sent le bienvenu. Plusieurs expats se sont récemment installés à Sayulita, donnant naissance à une foule d'endroits où manger, dormir et se rencontrer entre amis. L'activité principale à faire à Sayulita est donc de déambuler parmi les bars et restaurants locaux tout en s'assurant de profiter au maximum de la magnifique plage, notamment au coucher du soleil. Comme le village est situé à environ une heure de Puerto Vallarta, Sayulita est une destination tout indiquée pour un day trip. Plusieurs excursions sont disponibles pour visiter l'endroit, mais la majorité coûte un prix faramineux, rien que pour vous faire l'aller-retour. La meilleure astuce est donc de prendre l'autobus public, qui vous coûtera à peu près 5 $. Le trajet durera entre 1 heure et 1h30. Il faut toutefois faire attention, car le bus part du Walmart, ce qui est assez éloigné lorsqu'on loge au centre-ville ou dans la zona romántica, les meilleurs restaurants de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta regorge d'excellentes tables qui vous feront saliver et vous procureront de multiples orgasmes culinaires. Il n'y a donc aucune raison de se retrouver dans des attrape-touristes italiens comme la Dolce Vita ou de passer une semaine à manger des tacos de rue. Premier souper, Decantaro. Situé au cœur de la zona romántica, le restaurant offre une cuisine mexicaine contemporaine dans une ambiance grill chic décontractée. très bien situé, une nourriture de très haute qualité et un service exceptionnel. Je vous recommande la pieuvre. Deuxième soirée, Mar e Vino. Mar e Vino doit absolument être tout en haut de votre to-do list de Puerto Vallarta. Le restaurant haut de gamme propose un concept très simple, mais très novateur. Les invités sont conviés à des tables installées dans un bassin d'eau alors qu'ils contemplent le coucher de soleil. Perchés sur le toit de l'hôtel Playa Los Arcos Beach Resort and Spa, le Mar e Vino redéfinit l'expérience de la haute cuisine. La nourriture y est tout simplement délicieuse et le service est amical et cordial. Sincèrement, l'endroit est parfait pour une soirée en couple et pourquoi pas une demande en fiançailles. Soirée numéro 3, Palmar. Un peu moins extravagant que les autres, le Palmar est un resto de quartier qui propose une carte composée majoritairement de plats mexicains modernes et de fruits de mer. En juger par la rapidité avec laquelle l'endroit se remplit de clients locaux, on en déduit qu'il s'agit d'une des meilleures adresses de la zona romántica. Sans prétention, le petit restaurant très design compte sur des employés très amicaux et des plats abordables de la plus haute qualité. Recommandation : les calmars, le guacamole et le saumon. Quatrième soirée, direction Norok. Situé en face du Mar e Vino, le Norok propose un concept similaire. Profitez d'un excellent souper tout en baignant dans l'eau et en appréciant le coucher du soleil. À la différence du Mar e Vino, les invités ne sont pas assis dans l'eau, mais installés dans des banquettes plongées dans l'eau. Le menu n'y est pas aussi impressionnant qu'au Mar e Vino. Toutefois, le service exceptionnel et la prestation de chansons pop interprétées au violon font du Norok une adresse incontournable en couple ou entre amis. N'importe quel soir, Margarita Grill. Ce restaurant est probablement l'un des plus connus de la zona romántica, mais il mérite absolument d'être dans cet article à cause de son ambiance enlevante et de sa nourriture mexicaine succulente. La bouffe est tellement bonne et abordable au Margarita que j'y suis allée deux fois. La tradition veut que l'on prépare une salsa maison devant vos yeux, mais attention aux épices. La salsa peut rapidement devenir difficile à ingérer. Je vous recommande la soupe tortilla, les burritos et les chicken fingers. Faire la fiesta de jour. On ne peut pas aller à Puerto Vallarta sans profiter des talentueux DJs locaux en passant une journée dans l'un des nombreux pool clubs dont la ville regorge. Parmi les endroits où profiter du soleil tout en écoutant la meilleure musique house, on recommande Casa Copula, qui offre une multitude d'événements thématiques chaque jour dans sa piscine. Située au sommet d'une colline, la terrasse du Casa Copula offre une vue imprenable sur toute la ville. Mantamar est l'un des pool clubs les plus récents et les plus en vue à Puerto Vallarta. Situé directement sur la Playa Los Muertos, le pool club propose une terrasse sur deux étages avec deux piscines infinies, des chaises et cabanas en location, un service de bar et de nourriture complet, ainsi que des services de massothérapie. L'endroit mérite d'être visité, mais attention, la facture sera salée. Le Blue Chair est probablement l'institution la plus connue de Puerto Vallarta. Tout juste à côté du Mantamar, le resort offre une terrasse avec des spectacles de drague, un restaurant-bar complet et un personnel efficace et attentif. Une excellente option pour passer la journée sur la plage sous les parasols bleus. Faire la fiesta de nuit. Pour les hiboux parmi vous, Puerto Vallarta propose une quantité phénoménale d'options pour faire la fête toute la nuit. Au sommet de ma liste trône, naturellement, le cookie karaoke and drinks. Nul besoin de vous expliquer le concept, si ce n'est que la base de données de chansons est en ligne, donc il est possible de chanter n'importe quoi, même du Céline en français. En plus de présenter des prestations de drague hors de l'ordinaire, la Noche se démarque par son impressionnante terrasse située sur le toit de l'établissement. Achalandé, mais intime, l'endroit est parfait pour n'importe quel soir de la semaine. Bonus, il y a un chat qui habite dans le bar et qui se laisse flatter par les clients en ronronnant. Pour les amateurs de drague, c'est au C.C. Slaughter's que ça se passe. Oubliez le Pacos. Les dragues dansent et chantent parmi l'audience, ce qui rend l'expérience interactive et authentique, faisant du C.C. Slaughter's le meilleur endroit pour un show du genre, à mes yeux. Mr. Flamingo est l'épicentre du nightlife touristique de Puerto Vallarta. L'endroit ne se démarque pas pour une caractéristique particulière, si ce n'est sa localisation et son concept à air ouverte. Il n'y a pas de mur. C'est donc l'endroit idéal pour se donner rendez-vous en début de soirée avant de bouger vers un autre endroit. Visite, sans E, puertovallarta.com. C'était Découvrir Puerto Vallarta comme un local. Un texte de Stephen Ross, paru le 26 juin 2023 dans le magazine Fugue.